Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël, ravi de vous accueillir dans ce 78e numéro d'Historiquement vôtre. Dieu que le temps passe vite. Je me souviens encore de la première fois qu'on s'est rencontrés avec Stéphane. Vous m'aviez trouvé...
défraîchi, pour ne pas dire miteux.
Merci d'avoir sorti du ruisseau, faire un plat chaud et un plaid. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Je ne vous ai jamais trouvé défraîchi, miteux peut-être, mais pas défraîchi. Jamais, non. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre. D'habitude, nous partons à la rencontre de trois personnages reliés par un point commun, mais aujourd'hui, ils sont beaucoup, mais alors beaucoup plus nombreux.
Oui, je peine à les compter. On va parler de ces personnages de l'histoire qui ont eu, et parfois en même temps, deux amours.
Il y a deux amours.
Elle avait l'amour de son pays, mais des hommes aussi. Je parle évidemment de la reine d'Égypte, Cléopâtre. Elle était mariée à son frère, avant de rencontrer celui qui sera son véritable amour, Jules César, puis le second, Marc-Antoine.
J'aime comme vous dites ça avec beaucoup de naturel. Elle était mariée à son frère, et puis dans votre monde,
oui,
tout ça paraît normal, finalement, de se marier à son frère, sa sœur.
C'est simplement, vous savez, les pharaons d'Égypte épousaient leur sœur. C'est une tradition.
C'était la tradition.
Ça ne se fait plus,
et c'est...
Tout
temps, il n'y a plus de pharaons.
Oui.
Plus
de pharaons, c'est juste.
À part dans certaines contrées. Lui a deux amours, mais en même temps, le roi Henri II a partagé sa vie et son lit avec Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Et de votre côté, Mathieu, vous irez encore plus loin à travers votre personnage.
Oui, sachant que notre troisième personnage est la charmante comédienne Hélène de Fougerolles, je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par « j'irai encore plus loin à travers elle », peut-être lui demander son avis d'abord. Mais oui, je vous parlerai d'une actrice qui n'a pas deux amours ni trois amours, mais plein d'amours simultanés. On appelle ça d'ailleurs le polyamour, et vu la gueule d'Olivier Pouls, ça a l'air pas mal chouette.
Justement, ils sont avec nous comme chaque après-midi, la fabuleuse brochette du savoir.
Oui, alors, dans le petit milieu des clubs SM, on les surnomme même la triplette endiablée de la connaissance.
Ah non.
Ouais. Si.
Ah, je ne savais pas.
Alors, c'est un milieu qui est peu actif en ce moment.
On va apprendre des trucs. On sort du confinement, mais vaut mieux faire attention.
Attention aux gestes barrières encore. Et dans les clubs SM, je me suis laissé dire, Stéphane, que les gestes barrières étaient rarement respectés.
C'est vrai?
Je crois.
Elle nous entraîne nulle part, oui. Stéphane. Hein.
Dans l'intimité grande ce monde. Et encore, j'ai dit la chose poliment. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Pas du tout, comme d'habitude. Je vois que c'est encore à moi qu'il va revenir de donner de la hauteur à cette émission.
Vous avez du boulot.
Qui sombre dans les ménages à trois. Et alors, évidemment, il vous a échappé que demain, 10 décembre, sera la journée mondiale des droits de l'homme. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une très grande dame qui participa à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, qui fut la première présidente de la Commission des droits de l'homme à l'ONU en 1946. C'est Eleanor Roosevelt, la veuve du président Franklin Roosevelt. Et vous allez voir qu'elle fut une first lady pleine de surprises. Ouais.
Et puis avec nous, David Castello-Lopez.
Oui,
bonjour.
Il est là. Je suis là. Vous savez, dans les films, il y a une mention souvent au début à la fin qui dit toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite. Et ben un jour j'ai vu ça, je me suis dit mais d'où ça vient ? Pourquoi ? Ben, pourquoi on a commencé à écrire ça ? Et ben j'ai cherché.
Il
y a eu une étincelle.
Mais est-ce que c'était en France ou aux États-Unis par exemple ?
Dites-moi, tout à fait aux États-Unis.
C'était malheureusement aux États-Unis. Mais il y a un lien avec d'autres pays.
Et puis alors. Ça va être notre gourmandise de la fin d'après-midi. J'adore ce dessert. Ah oui, oui. Olivier Pouls, de quoi on va parler ?
Mais parce que moi aussi, je suis polyamour, mais polyamour culinaire. C'est-à-dire, j'aime la cuisine française, j'aime la cuisine chinoise, j'aime aussi la cuisine italienne.
Vous êtes omnivore.
Et voilà.
Un autre nom.
Et quand on pense à la cuisine italienne et au plus emblématique des desserts italiens, c'est évidemment le tiramisu qui nous vient à l'esprit. Qui nous excite, les papilles surtout. Donc je vous raconterai d'où il vient.
Et les mamies aussi.
Et les mamies, c'est important de le préciser. Des couples libres, des troubles, du polyamour et même si j'ai bien compris, des jeux sexuels à base de tiramisu. Cette émission s'annonce bien, d'autant que vers 5h-10, on jouera à Burn to be Alive. Et ça aussi, c'est que de l'amour, comme disait Patrick Sébastien. Mais l'amour est parfois vache. Mais d'abord, découvrons notre première amoureuse de l'histoire, la reine Cléopâtre. Elle a aimé son frère, elle a aimé Jules César, elle a aimé Marc-Antoine aussi.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Sur la fin, on dit que César et Cléopâtre se disputaient comme un vieux couple.
J'ai pu te prouver n'importe quand, ô César, que mon peuple égyptien a gardé tout son génie.
Ah oui, et comment, en dessinant des bonhommes de face?
Mais Cléopâtre n'a pas seulement aimé César, elle a aussi aimé Marc-Antoine. Les deux amours de Cléopâtre, c'est encore plus émouvant dans la bouche de Stéphane Bern.
Les commentateurs romains la décrivent comme une sirène, une fille impure ou encore une putain fardée. Dernière reine d'Égypte, Cléopâtre a toujours suscité la curiosité, l'admiration, la jalousie aussi. Femme de caractère, elle a été considérée à tort pendant plus de 20 siècles comme une simple courtisane manipulatrice, une croqueuse d'hommes, de deux hommes, en particulier César et Marc-Antoine dit Antoine. Pourtant, derrière cette caricature un brin misogyne se révèle une reine d'une extrême intelligence, autant séductrice que stratège. Cette nuit de l'an 48 avant Jésus-Christ, un étrange cadeau est déposé aux pieds de César dans le palais royal d'Alexandrie. Enroulée dans une couverture, Cléopâtre, reine d'Égypte, se présente au dictateur romain. Moment historique ou simple légende, l'objectif est en tout cas atteint. Jules César est surpris, puis conquis. Car depuis quelques jours, désormais seul à la tête de la République romaine, depuis l'assassinat de son adversaire, Pompée, César a posé ses valises à Alexandrie. Il veut parler aux deux souverains d'Égypte, Cléopâtre et son frère, qui est aussi son époux, Ptolémée XIII, qui se livre une guerre pour régner seul. La reine égyptienne, 21 ans, voit donc en cette rencontre secrète avec César, 52 ans, une issue à son calvaire. Cléopâtre est belle, c'est vrai, mais surtout dotée d'une incomparable intelligence. Elle maîtrise plusieurs langues, elle parle le grec, l'égyptien, l'araméen, le troglodyte, entre autres. Son charisme, sa connaissance parfaite de la politique, son aura séduisent César. Ont-ils consommé leur amour cette première nuit? Oh, nul ne le sait.
Ça m'étonnerait que Cléopâtre couche le premier soir, Stéphane, quand même. Hein.
En revanche, Jules César est affirmatif sur un point. L'Égypte, dont la richesse en matières premières et en argent est indispensable aux Romains, doit être dirigée d'une main de maître, voire de maîtresse. Après une guerre qui aboutit à la disparition de Ptolémée XIII, Cléopâtre peut enfin souffler. Comme le veut la tradition, elle épouse son autre frère, Ptolémée XIV. Mais ce nouveau roi se révèle être transparent tout au long de son règne. Cléopâtre se concentre alors sur l'homme qui occupe peut-être autant son cœur que ses ambitions politiques, César. La reine a tout prévu pour parvenir à ses fins. Elle emmène son amant pour un voyage féerique de 3 semaines, une croisière sur le Nil destinée à lui montrer la grandeur de l'Égypte. Au départ d'Alexandrie, on comptait pas moins de 400 navires, dont certains avoisinent les 90 mètres de long. Le bateau royal affiche un luxe jamais vu dans le monde méditerranéen. Proue en ivoire, ponts à colonnades, statues dorées de 6 mètres, la nef royale pouvait comporter un gymnase, une bibliothèque, des temples, des jardins, une grotte, une piscine en cuivre, des écuries, un aquarium. Le couple, tel des dieux en voyage sur Terre, est accueilli avec tous les honneurs. Elle, menue et brune, en robe blanche et diadème, lui, carrure musculeuse, drapée dans un manteau de pourpre, Cléopâtre fait découvrir à César les temples de Memphis. Il succombe devant la splendeur des tombeaux de la vallée des rois. Champs de blé à perte de vue, fruits à profusion, le consul romain ne sait même plus où regarder. Mais nous sommes en juin et Jules César n'a plus donné de nouvelles à Rome depuis décembre.
Même pas un texto.
Le Sénat romain reproche à la tentatrice reine d'Égypte d'avoir emmené leur chef dans des contrées exotiques pour le faire succomber à ses charmes et lui faire prendre des décisions politiques dangereuses pour la République romaine. Alors que César rejoint l'Italie, Cléopâtre donne naissance aux fruits de leur amour, Césarion, petit César, voit le jour. 2 années s'écoulent, alors qu'elle est parvenue à pacifier et redresser l'économie de l'Égypte, Cléopâtre est sur le départ, direction Rome, avec Césarion, 1 an, et Ptolémée XIV. La reine ne veut pas voyager incognito pour retrouver son amant, pourtant déjà marié à Calpurnia, à Rome. Elle arrive sur sa flotte royale avec de nombreux cadeaux, jarres remplies d'eau du Nil, étoffes, cannelle, peau de parfum, coupe d'or, léopard même. César l'installe dans une magnifique demeure entourée de jardins. C'est dire l'importance qu'il porte à la reine d'Égypte. Pendant 2 ans, ils semblent vivre pleinement leur bonheur. César fait même ériger dans un temple une statue de Cléopâtre. Vous imaginez, Mathieu? Cléopâtre a presque atteint son but. Désormais, acceptée comme la compagne de l'homme le plus puissant du monde, elle n'aurait qu'une idée en tête, que Césarion devienne l'héritier d'un territoire immense, aussi grand que celui de son aïeul, Alexandre le Grand.
Mais à Rome, certains ne partagent pas cet avis. Accrochés à leur république, les sénateurs craignent la royauté qui germe dans l'esprit de César. En mars 44 avant Jésus-Christ, ils l'assassinent de 23 coups de couteau. C'est le début de la guerre civile à Rome. Cléopâtre n'a plus le choix. Elle repart vers l'Égypte. Elle manque son pari de placer son fils Césarion à la tête de la République romaine. Parfois, un destin se joue à peu de choses, mais Cléopâtre ne va pas tarder à rejoindre le deuxième amour de sa vie, un certain Marc-Antoine, qui fut le maître de cavalerie de Jules César.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
J'ai deux amours, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Stéphane, vous nous racontez la passion entre la reine d'Égypte, Cléopâtre, et l'impérateur romain Jules César. Malheureusement, César n'est plus et Cléopâtre est reparti vivre à Alexandrie, mais un autre homme l'attend.
Cléopâtre est effectivement en partance pour Tars sur la côte turque, où le maître de l'Orient, Marc-Antoine, qu'on appelle aussi Antoine, lui a demandé de la rejoindre. Antoine, Lépide et Octave, l'héritier officiel de César, se sont partagés la République romaine, mais Antoine veut à présent combattre les Parthes et a besoin du soutien financier et alimentaire de Cléopâtre. Elle connaît la réputation d'Antoine, il aime le luxe exotique, les belles femmes, le vin. Stratège, Cléopâtre met donc en scène son arrivée. On raconte qu'elle s'est déguisée en Aphrodite, déesse de l'amour, est étendue sur un divan sous un débrodé d'or. Mais comment résister ? Antoine tombe sous le charme en moins d'une heure. Amoureux, il rentre à Alexandrie avec sa belle égyptienne. Les tourtereaux passent l'hiver ensemble et pratiquent l'abimétobis, qu'on peut traduire par « ceux qui mènent une vie inimitable ».
Ah, j'aimerais bien essayer ça.
Essayez l'abimétobis.
Mais avec qui ? C'est ça le problème. Oh, bah.
Ils organisent des banquets toujours plus fastueux. Antoine, fier de son physique robuste, aime s'habiller en Dionysos. Les mets les plus délicats qu'il déguste allongés sont proposés aux invités. Cet étalage de richesse est un investissement à la fois d'amour, mais aussi politique. Cléopâtre doit avoir Antoine comme allié pour garantir une certaine autonomie de l'Égypte. De leur amour naissent des jumeaux, mais Antoine doit rentrer à Rome où Octave voit d'un mauvais œil sa relation avec la reine égyptienne. Cléopâtre a 29 ans, elle est plus seule que jamais. 3 ans plus tard, Antoine revient auprès de Cléopâtre après avoir subi une défaite désastreuse contre les Parthes. La reine renoue avec lui à une condition, qu'il lui donne des garanties de sa volonté de soutenir la croissance du pays. Antoine accepte et lui promet la souveraineté sur la Cyrénaïque, la Crète, l'Arménie, l'Asie mineure, la Syrie et la Phénicie. Le royaume d'Égypte est en passe de retrouver son hégémonie d'antan. À Rome, la colère explose. Octave, l'héritier direct de César, part en guerre contre son ancien allié. Cléopâtre, quant à elle, refuse de se séparer de son amant et soutien politique. Aussi dangereux que cela puisse paraître, elle s'engage avec sa flotte aux côtés d'Antoine. Le couple est rapidement pris au piège dans le golfe d'Ambracique en Grèce et le 2 septembre 31 se déroule la célèbre bataille d'Actium. Cléopâtre parvient à s'enfuir avec son immense trésor et Antoine la rejoint. C'est une défaite cuisante. Antoine, qui depuis son retour à Alexandrie, sombre dans une profonde dépression, se suicide avec son épée. Informé, Cléopâtre le fait chercher. Il meurt dans ses bras. De son côté, la reine d'Égypte ne s'imagine pas une seconde devenir le trophée de guerre d'Octave et de devoir parader sur son char à Rome. Elle se donne également la mort. La légende, encore et toujours, raconte qu'elle aurait succombé à la morsure d'un serpent. C'est beau.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Cléopâtre et de ses deux amours, Jules César et Antoine, amours successifs, on le rappelle, et non simultanés, nous sommes avec Virginie Giraud. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Bonjour Virginie Giraud, vous êtes docteur en histoire. Vous avez notamment écrit « La véritable histoire des 12 Césars » paru chez Perrin, qui vient d'être réédité en format poche, dans laquelle vous évoquez évidemment Cléopâtre, César et Marc-Antoine. J'ai raconté que Cléopâtre a été considérée à tort pendant plus de 20 siècles comme une simple courtisane manipulatrice, mais elle était beaucoup plus que cela. En quoi est-ce qu'à votre avis, Virginie, c'était une grande stratège ?
Ah ben c'est la plus grande femme politique de son époque, mais comme toutes les sources qui parlent d'elle sont romaines. Il faut savoir que les Romains étaient extrêmement misogynes. Et ben, ils en ont fait une catin, une sorcière, quelqu'un qui manipule les hommes contre Rome.
Dans l'Égypte, à l'époque, c'était beaucoup plus courant qu'une femme puisse comme ça se charger des affaires publiques. C'était une société moins misogyne, la société égyptienne de l'époque.
Alors, dans la tradition des Ptolémées, la famille de Cléopâtre, il y a eu plusieurs femmes qui se sont approchées du pouvoir, hein, dont la grande sœur de Cléopâtre, Arsinoé, qui a fait un coup d'État contre son propre père.
Et il y a une part de vérité quand même malgré tout. Elle aimait les hommes indubitablement, ceux qu'elle avait choisis. Puis on peut rappeler qu'elle était mariée d'abord à Ptolémée XIII, son frère, puis Ptolémée XIV, son autre frère. Ça, c'était des mariages à la fois contre nature et contre son gré.
Oui, tout à fait. C'était des mariages arrangés qui étaient classiques dans la tradition pharaonique où pour conserver le sang royal, on se marie entre frères et sœurs. Mais il n'y a aucune trace d'amour. D'ailleurs, elle les a fait tuer dès qu'elle a pu.
Ah oui, César et Marc-Antoine, elle les a aimés ou est-ce qu'à votre avis, il y avait beaucoup plus de politique que de sentiments?
Il y a de tout, c'est tout en fait, je pense. Dans le cas de Jules César, je pense qu'il y avait une forme de mentorat. Il a une trentaine d'années de plus qu'elle et il forme un petit peu cette jeune fille. On n'a jamais vu comme ça. Il y a un côté Pygmalion, effectivement, sauf que Galatée est pas très docile hein, finalement, parce qu'elle voit aussi un moyen de prendre du galon et de prendre vraiment les pleins pouvoirs en Égypte.
Mais dis-toi Virginie, le Jules César est donc le premier à avoir succombé au charme envoûtant de Cléopâtre. Qu'est-ce qui lui a plu? Il la surnommait bouche d'or. C'est sa bouche qui était extraordinaire?
Oui, elle était extraordinaire, mais pas parce qu'elle parlait plusieurs langues.
Pas parce qu'elle parlait plusieurs langues. Très bien. Vous comprenez bien, Stéphane. Oui.
On a les mêmes, humour.
Elle faisait des choses que, voilà.
Mais est-ce que c'est attesté, ça? Donc, très franchement, Virginie, moi, j'adore cette idée, c'est rigolo. Mais est-ce qu'on a des détails de ça? Est-ce qu'on sait que Cléopâtre?
On sait que dans la tradition égyptienne, la déesse Isis, elle-même avait ranimé Osiris en lui prodiguant une fellation. Donc pourquoi la reine d'Égypte n'aurait pas pu le faire?
Voilà une belle religion, Stéphane.
Pas de raison. Alors qu'à Rome, les femmes ne pouvaient pas le faire.
Ah bon, les femmes n'avaient pas le droit?
Les prostituées seulement.
Ah bon?
Mais oui.
On en apprend des choses à chaque fois avec vous, Virginie.
Mais qu'est-ce qui lui a plu? Parce que voilà un homme de 52 ans, elle a 21 ans, il y a une différence d'âge. Il succombe tout de suite. Il paraît qu'en moins, ce que je racontais, c'est qu'en une heure, ça y est, il était conquis.
Ah mais totalement, parce qu'elle a un aplomb redoutable. Il n'a jamais vu de femme comme elle. Alors effectivement, elle est jolie, elle a tous les privilèges de la jeunesse. Mmh. Mais surtout, elle veut le pouvoir et il a peut-être l'impression de voir une sorte de miniature de lui au féminin. Donc c'est pour ça qu'il a envie de travailler avec elle, de la mettre à la tête de l'Égypte. Et il y a ce côté, comme vous disiez, Pygmalion. Donc c'est un partenariat vers le pouvoir.
Ouais. Mais elle a besoin de lui pour se débarrasser de son frère d'abord. Parce qu'à ce moment-là, elle est en guerre contre Ptolémée XIII.
Elle a été exilée parce que son frère est manipulé par tous les hommes de son conseil qui refusent d'avoir Cléopâtre dans les pattes parce que Cléopâtre, elle veut régner et toute seule. Elle a un côté très autocratique.
Et ensuite, elle tombe sous le charme d'un autre homme très puissant, l'un des plus puissants du monde romain, Marc-Antoine. Et là encore, une relation très intéressée. Marc-Antoine, lui, il a besoin de son armée. Est-ce qu'on peut vraiment... Moi, j'ai l'impression que
il
y a une patine de la légende là-dedans. On dit qu'il y avait de l'amour et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve, c'était juste purement politique.
Alors oui, bien sûr, il y a de la politique. Mais pourquoi Cléopâtre tomberait-elle amoureuse d'un homme qui n'a pas l'étoffe de Marc-Antoine? Vous voyez, ils étaient à égalité d'une certaine manière. Et elle a besoin d'un allié à Rome, ça c'est certain. Elle a le choix entre Octave et Marc-Antoine. Or, Octave, c'est pas un sensuel. La seule chose qui l'excite, lui, c'est le pouvoir. Donc elle sent qu'elle aura pas de prise sur lui, alors que Marc-Antoine est un osseur. Il aime la bonne chair, le vin...
Les bouches d'or. Nous avons compris cela.
Les a aimés les deux de la même manière où on sent quand même que Marc-Antoine avait ses préférences. Elle a vraiment aimé Marc-Antoine.
On a le sentiment qu'il y a vraiment de l'amour avec Marc-Antoine, mais quelque chose qui très passionnel, parce que déjà ils sont plus proches en âge, ils vont passer plus de temps ensemble, ils vont avoir des enfants, et ils vont rêver de mettre la main vraiment sur toute la partie orientale de l'Empire romain et de le diriger ensemble. Donc il y a une trame qui est très passionnelle.
Ça fait penser au couple dans House of Cards.
Oui, c'est ça, totalement, c'est un couple de partenaires.
Mais cet amour va avoir des conséquences désastreuses. Parce qu'évidemment, c'est la fin de l'indépendance de l'Égypte. C'est-à-dire qu'après ces défaites cuisantes de Marc-Antoine, elle a tout donné à Marc-Antoine et elle récolte quoi? La fin de cette Égypte impériale, en quelque sorte.
Mais Octave avait pour projet de faire de l'Égypte une province romaine. Et finalement, le seul barrage qu'elle avait contre ça, c'était Marc-Antoine qui lui garantissait son trône et qui faisait d'elle une reine satellite de Rome. Or, effectivement, dès que Marc-Antoine a perdu contre Octave, Octave a récupéré l'Égypte et en a fait une province province sous gouvernement impérial, hein, ce qui est d'ailleurs une particularité, et là il ne fallait plus de reine.
Un mot, Virginie, de leur fin tragique. Marc-Antoine meurt dans les bras de Cléopâtre, oui. Et Cléopâtre se donne la mort. On dit qu'elle aurait succombé à une morsure de serpent, ça c'est une légende.
En prenant une pomme, c'est ça, il y avait un serpent dans la coupe de fruits.
Il mélange toutes les religions.
Il y a plein de versions différentes. Déjà, elle ne se donne pas la mort dans la foulée. Hein. Il se passe quand même plusieurs jours où il y a des négociations avec Octave qui n'avancent pas. Et comme elle voit qu'elle ne peut pas négocier avec Octave, eh bien effectivement, dans toute sa dignité de femme antique, eh bien elle va préférer le suicide plutôt que le déshonneur. Elle s'enferme dans son propre mausolée. Et là, on ne sait pas trop. On dit qu'elle aurait fait venir un panier de figues avec des aspics cachés sous les figues pour se tuer avec le venin des serpents, ou qu'elle aurait eu une épingle à cheveux remplie de poison qu'elle aurait ingurgité. Mais voilà, c'est la légende.
Merci beaucoup Virginie Giraud. Je rappelle une dernière fois le titre de votre ouvrage, La véritable histoire des 12 Césars, qui vient d'être réédité en format poche chez Perrin. Merci beaucoup.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les après-midi de 16h à 18h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se raconter. Et Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Mais qu'elle partage avec nous, évidemment. Aujourd'hui, Clémentine, après l'Égypte, on prend la direction des États-Unis à la rencontre d'une grande militante des droits de l'homme.
Oui, bah écoutez, on reste dans les grandes femmes politiques, hein, parce que c'était aussi le cas de Cléopâtre. Oui. Alors, Eleanor Roosevelt, elle naît en 1884, elle a un destin tout tracé de femme d'homme politique, hein, parce qu'elle naît dans le milieu richissime de la côte Est, c'est une vraie WASP en fait. Donc, elle est la nièce d'un président des États-Unis, elle épouse un jeune homme qui va devenir un politicien prometteur et qui lui-même aspire à devenir président, donc elle a un destin tout tracé de First Lady, de mère au foyer, et c'est tout ce qu'on lui demande, fait des enfants, c'est bien, et va inaugurer les chrysanthèmes. Bon, alors elle se plie à ce qu'on attend d'elle, elle donne 6 enfants au président quand même, donc elle fait bien le taf, comme disent les jeunes aujourd'hui, mais ça la rend pas du tout heureuse pour autant, elle a l'impression de ne pas être à sa place, d'être enceinte tout le temps, surtout, ce qu'on peut comprendre. Et en fait, ses premières années de mariage, elle se marie en 1905, elle a 21 ans, sont plutôt des années de dépression pour elle, et différents éléments révélateurs vont venir bouleverser totalement son existence. Elle découvre que son mari la trompe, qu'il la trompe assidûment. Un jour, elle tombe sur les lettres d'amour que son mari reçoit de ses maîtresses. Il la trompe avec sa propre secrétaire à elle. C'est même pas sa secrétaire à lui.
C'est
sa secrétaire à elle. Il y en a eu d'autres. Hein. Donc, elle veut divorcer absolument. Ça suffit. Hein. Et en fait, son mari ainsi, sa belle-mère, qui était aussi une personnalité assez épouvantable, se rendent bien compte que s'il y a divorce, la carrière politique du mari est quand même assez compromise, donc elle accepte de rester, mais elle va s'installer à part, et elle devient une sorte de partenaire pour son mari. Et cette remise en question de son mariage, parce que son monde s'est effondré, cette femme, va la changer du tout au tout. Elle comprend qu'elle peut sortir de ce rôle de potiche et de mère au foyer. Elle se met à fréquenter des intellectuels, des juristes, des femmes libérées, des femmes engagées. Là, c'est le début d'une transformation majeure. Et le second bouleversement, c'est la maladie de son mari en 1921. On pensait à l'époque qu'il avait la polio, on sait depuis 2012 qu'en fait c'est le syndrome de Guillain-Barré. Donc dans sa vie publique, il faisait des efforts, Roosevelt, pour se munir de béquilles ou simplement s'appuyer sur un accompagnateur, mais en privé, il était constamment dans un fauteuil roulant. Et elle va le soigner avec dévouement, elle va l'aider à surmonter cette crise morale majeure dans la vie de n'importe quel individu, et elle devient ses yeux et ses jambes. Et cette femme qui elle-même se disait gauche, timide, incapable de prendre la parole, commence à s'exprimer en public, devient de plus en plus à l'aise et va tous les jours communiquer des nouvelles, une sorte de synthèse de la journée à son mari. Voilà, j'ai rencontré les femmes dans le sud, elles voudraient que les femmes aient plus de place. Enfin, elle commence à jouer un vrai rôle et elle va jouer un vrai rôle dans la campagne victorieuse de son mari en 1932. Elle devient ainsi la première First Lady à donner une dimension politique et médiatique à son rôle. Elle est membre du cabinet présidentiel en tant que secrétaire au travail et elle va beaucoup contribuer à la popularité de son mari. Alors, sa popularité à elle aussi est très forte et notamment pourquoi ? Parce que l'année 1932-33, qui est l'année d'élection de son mari, il y a plus d'articles sur elle que sur son mari. Alors, femme extrêmement active, extrêmement énergique, qui se déploie tous azimuts pour la justice sociale et l'émancipation des femmes. Elle tient une chronique quotidienne qui s'appelle My Day, où elle raconte aux Américaines ce qu'elle fait de sa journée.
C'est très moderne, ça.
On peut la questionner. Elle organise une conférence de presse hebdomadaire réservée aux femmes. On est dans les années 30, c'est quand même effectivement très avant-gardiste. Et alors, elle est à la fois, elle est ingérable. Évidemment, les conservatrices se trouvent qu'elle en fait beaucoup trop, qu'elle devrait pas se mêler de ça, qu'elle devrait accompagner son mari, c'est tout. La presse conservatrice la dénonce comme une Amazone qui veut instituer un gouvernement de jupons. Ça va pas s'arranger parce qu'elle va également s'engager contre les discriminations dont sont victimes les Afro-Américains et la ségrégation. Elle prend position contre les lois anti-lynchage dans le Sud, mais elle va être aussi la première femme américaine à aller en Europe en 42. Elle a trois fils qui se battent, donc elle prend la parole à la radio en disant « Écoutez, je sais ce que c'est, je suis une mère, j'ai trois enfants sur le terrain des opérations. » Bon, enfin, vous voyez, elle est vraiment devenue une personnalité majeure de la politique américaine. Et après la mort de son mari, en 45, Truman lui demande d'aller à Londres faire partie de la commission qui doit travailler sur la déclaration des droits de l'homme. Et elle va se consacrer en particulier à un problème ô combien majeur aujourd'hui aussi, les personnes déplacées. Il y a des millions de personnes déplacées à la fin de la guerre. Elle travaille à ce projet de déclaration des droits de l'homme. Elle sera donc la première présidente de la commission des droits de l'homme à l'ONU. En 78, soit 16 ans après sa mort, elle meurt en 1962. Sont rendus publics plus de 3300 lettres échangées entre elle et la journaliste de la Maison Blanche, Lorena Hickok. Ce sont des lettres d'amour absolument passionnées. Et leur liaison a commencé en 1932, première année de l'élection de Franklin Roosevelt. Et cette femme a eu énormément d'influence sur elle. Elle a beaucoup poussé à s'engager. Je trouve que c'est une histoire d'amour merveilleuse parce que Lorena Hickok, elle est d'une beauté. Elle est beaucoup plus jeune qu'Eleanor et elle est belle. Donc c'est une histoire comme il n'y en a pas beaucoup. Elle est magnifique. Alors, vous voyez, Eleanor Roosevelt, icône des féministes, des homosexuels et des afro-américains, on est loin, bien loin de la WASP pur sucre qu'elle était en naissant. Et au moment de sa mort, en novembre 62, le New York Times titre en disant qu'elle était l'une des femmes les plus estimées au monde. Eh bien, c'était bien justifié.
Bravo, passionnant votre récit, merci. Clémentine.
Clémentine, vous restez avec nous ces derniers temps, vous restez sur un certain nombre de défaites dans le quiz. Qu'est-ce qui se passe?
Pas hier, j'ai gagné sur les bordels de campagne à Ouagadougou, non? Ah non, c'était en Guyane.
On voit que les choses entrent bien dans la tête avec le quiz. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est l'heure du quiz dans Historiquement vôtre. Séquence de l'émission où la légendaire courtoisie de Stéphane Bern s'éclipse pour laisser place à une animosité bestiale. Là, faut plus lui parler. Il est dans sa bulle de concentration.
Si parle à mon truc mot, parce que ma tête est malade.
Jouons vite à Bern to be alive. Ce fameux quiz dans lequel vous vous êtes illustré dernièrement, Stéphane. On va voir si ça continue aujourd'hui. Première question, elle est pour vous. À Paris. Alors attention, Clémentine, comme vous avez rédigé un trivial poursuite sur Paris, je vais vous demander de ne pas aider Stéphane, car peut-être vous connaissez la réponse. À Paris, la place Didier Fauque dans le 16e arrondissement a été remplacée en 1881 par la place des États-Unis. À l'origine de ce changement de nom, une délégation américaine s'y était installée, et comme Didier Fauque, ça ressemblait à Fuck, on a changé de nom. Vrai ou faux?
Voilà une question qui m'avait échappé lorsque j'ai fait le trivial poursuite Didier Fauque. Oui.
Des Américains se seraient installés là et donc auraient demandé quand même à ce
je
qu'on...
Je crois pas parce que place des États-Unis, il y avait, il y a toujours l'hôtel de Noailles, l'hôtel de Edmé de la Rochefoucauld qui est devenu l'ambassade d'Égypte. Il y avait tous les hôtels particuliers.
Et ça a un lien avec l'indépendance américaine, c'est plus ancien, je pense.
C'est un lien
avec l'ambassade. Ça devait s'appeler comme ça avant.
Non, je crois pas.
Vous dites?
C'est faux.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, mais de justesse, Stéphane.
Pourquoi?
Car cette question a un sens. C'est faux, mais l'anecdote est vraie. Avant, la place des États-Unis s'appelait la place de Beach. Et comme ça sonnait comme bitch en anglais, je ne traduirai pas ici parce que je suis un gentleman, ils ont appelé cette place la place des États-Unis, Stéphane. Vous le saviez? Non, vous n'en avez aucune idée, visiblement.
Non, moi non plus, j'ignorais.
Vous l'avez appris. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Catherine II, impératrice autocrate de toutes les Russies, était tellement gourmande qu'elle avait une goûteuse pour les hommes, ce qui lui permettait d'éviter les MST. Vrai ou faux?
Mais bien sûr, alors dites donc, ouais. Vous devenez gaga, mon cher ami.
Elle
hein.
l'a raconté
ça
dans
a été
une
ma
chronique.
Première chronique dans ouais. cette émission, avec Platon Zuboff, qui avait 38 ans de moins qu'elle et ses essayeuses.
Non, vous posez des questions à Clémentine.
C'est très désobligeant.
Sur des choses qu'elle vous a racontées.
Oui.
Alors là, vraiment.
Mais oui,
c'est
oui.
pire, là, que, c'est, mais c'est pire qu'une erreur, c'est une fausse.
Stéphane, oui. ce quiz, ce n'est pas moi qui le prépare.
Ah bon ?
Quelqu'un qui est normalement... un esprit oui. assez vicieux qui pose des questions.
Oui,
mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parfois fait fast-forward sur la chronique de Clémentine et a loupé effectivement
je
cette première
très,
page.
Très
moi,
vexée.
Je vois une autre explication.
Qui est ?
C'est que il est suffisamment pervers, Sébastien Bordonnat.
Pour voir si vous connaissez vraiment
non,
au sujet.
Non, pour faire en sorte de favoriser.
ça, c'est possible aussi. Oui.
Il est vrai que je lui ai fait un petit chèque récemment.
Oui, oui. Ah, mais enfin,
là, la ficelle est un peu grosse quand même. J'en suis moi-même confus.
Oui, mais il faut le jouer néanmoins.
Oh, bonne réponse! Non, je pense qu'on peut retirer
ah
cette
bah
question.
Ah, pas du tout!
Non,
quoi
mais comment?
Ah, je reconnais bien là votre perversité animale dont parlait Mathieu il y a 5 minutes.
Mais là, elle a reconnu elle-même que c'est elle qui avait fait la chronique. Donc.
Nous débattrons de ça tout à l'heure. Pour l'instant, on rappelle, pour ceux qui n'écoutaient pas cette émission, qui était une de nos premières émissions, cette personne qui testait les amants de Catherine II, c'était Anna Protasova, on l'a surnommée en Russie, l'éprouveuse en français dans le texte, car fin du 8e siècle, la langue de Molière était assez à la mode. Question numéro 3. Pour vous, Stéphane Bern, évoquons maintenant une de vos figures iconiques, Ernesto Che Guevara. Défendu tous vos idéaux. Icône révolutionnaire, marxiste, léniniste, internationaliste, tout comme vous. En supposant qu'il ait fini sa vie en France, est-ce que le Che a vécu suffisamment pour voir l'émission des chiffres et des lettres à la télé? Voilà une question historique, digne niveau doctorat.
Les chiffres et des lettres, c'est la plus ancienne émission. Elle a quoi ? 30 ans ?
Ah non, plus que ça, bien plus que ça.
40
c'est
ans.
La plus ancienne, elle a au moins 40 ans, 45 ans. Che Guevara, il est mort en quelle année ? C'est pas 62, non ?
Oui.
62 ? Les chiffres et des lettres, ça veut dire que
oui,
si c'est 62, ça aurait 58 ans.
Oui.
Ça peut-être pas 58 ans quand même, les chiffres et des lettres.
Ça va se jouer à quelques années.
Ouais, à mon avis, il n'aurait pas pu voir des chiffres et des lettres, mais ça a dû se jouer à 2 ans, quelque chose comme ça. Bon, je ne veux pas influencer mon adversaire.
Non, il n'a pas vu des chiffres et des lettres.
Vous avez perdu.
Mais Stéphane, vous aviez la bonne réponse et vous avez suivi Clémentine qui vous a savonné la planche.
Mais j'étais commissaire politique dans une autre vie.
Il aurait pu, le Che, regarder des chiffres et des lettres. Effectivement, il est mort en 67. La célèbre émission conçue par Armand Jameau est apparue en 65 sur la deuxième chaîne de l'ORTF.
Mon intuition, c'était il l'aurait pu,
mais votre intuition...
Désolé,
vous savez que je fais plus confiance à Clémentine qu'à moi-même.
Intuition. Et vous avez tort.
C'est beau, ça. Marions-nous.
Question. Question.
C'est vrai, j'avais oublié, mais enfin ici on pratique le polyamour, d'après ce que j'ai compris.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine.
Ah, je suis désolée, Stéphane.
Non, question éminemment difficile pour celle qui a écrit Les Secrets de Paris. Depuis le début du 19e siècle, les numéros des maisons de la capitale dépendent de la Seine. Vrai ou faux ?
Bien sûr.
Bien sûr.
Bah oui,
bien sûr.
C'est dur.
Oui, non, ça c'est facile. Ah, ouais. Oui, ça c'était facile. Autre question. Question suivante.
Notons que Clémentine a gagné. Un point de plus pour Clémentine.
Non, mais attendez, vous avez vu les questions que vous lui posez?
Oui, c'est bizarre.
Je demande au juge de touche de venir. Il doit y avoir des juges de patins à glace russe dans la régie.
Pardon, les amis. Je sais que cette émission est faite pour me ridiculiser. Très bien. C'est une volonté d'Europe 1.
Merci, Sébastien.
C'est le groupe Lagardère qui a envie de ruiner ma réputation. C'est votre droit. Mathieu Noël. Maintenant,
mais là, c'est trop gros.
C'est énorme, là. C'est-à-dire, prendre une question à Clémentine sur une rubrique, une chronique qu'elle a faite. Deuxième chose,
sur
tout
Paris.
Le monde. Mais vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue depuis.
Alors, Stéphane, expliquez-nous
depuis
le principe
de
1805.
Quand on
c'est
cherche...
trop chaud. Qui a fait ça.
C'est trop chaud, absolument. Ouais. Tous les numéros des rues on commence à la Seine. C'est-à-dire, de 1 à la plus longue rue de Paris, c'est la rue de Vaugirard, de toute façon.
Vers les 300 et quelques, la rue de Vaugirard, je dirais. Mais vous voyez, si vous êtes rue de Rennes, là, vous allez par la rue Bonaparte jusqu'à la Seine, les numéros 1 sont au niveau de la Seine.
D'accord,
et vous remontez vers la tour Montparnasse et vous arriverez vers le numéro
3. Et c'est comme ça pour toutes les rues de Paris.
Et
si vous êtes de l'autre côté de la Seine, sur la rive droite, même chose.
C'est pareil.
Ça commence, la rue Saint-Anne. Commence
et
vous montez.
Et bien voilà, ça c'était très clair. Ouais. Et Stéphane, vous le saviez aussi, c'est dommage, le point va à Clémentine.
Oui, merci Stéphane.
C'est un triomphe pour Clémentine.
Oui,
mais qu'est-ce
de la droiture et de l'honnêteté. Hein
c'est un triomphe de la complicité, de la duplicité.
Pardon, normalement, je ne suis pas complotiste.
Mais là je suis obligé. Mais c'est-à-dire que moi non plus, mais là, il y a quelques éléments qui nous amènent à penser que
peut-être, régler mes dettes avec
peut-être ce quiz a été
le rédacteur
pratiqué.
Des questions.
Allez payer, monsieur Bordenave.
Je joue la carte de l'honnêteté avec les auditeurs. Ce quiz était truqué. Voilà.
Ouais. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Avec Stéphane Bern, ce n'est pas un secret, nous avons deux amours.
J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Alors, non pas notre pays est Paris, car Stéphane, ça serait plutôt le duché du Luxembourg et Monaco.
C'est un grand
mais
duché.
Le rire et l'histoire, la bonne humeur et la connaissance. Est-il possible de réunir les deux dans une seule et même émission?
Je sais pas.
Ah bah si Stéphane, vous savez, vu que c'est déjà le 78e numéro d'Historiquement Vôtre.
Ah oui, c'est vrai. L'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Aujourd'hui, on vous parle donc de ces personnages qui avaient deux amours, ou plus. Après Marc-Antoine et Jules César pour Cléopâtre, cap maintenant sur un étonnant...
Et moustillant.
...trio amoureux. Henri II qui aimait Diane de Poitiers, mais aussi Catherine de Médicis. Quant à vous, Mathieu, vous nous prouverez que l'ère moderne est le théâtre de nouvelles évolutions dans le polyamour, disons.
Oui, vous savez, la polygamie s'est dépassée. Découvrez la multigamie. Chacun a plusieurs partenaires différents et en même temps, je sens que ça plaît à Castel Lopez.
Personne ne peut refuser une bonne partouze.
Ah mais pas du tout, David, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le polyamour. Il y a amour dans polyamour. On en parle avec la comédienne Hélène de Fougerolles.
Mais on va parler aussi de nos chroniqueurs aujourd'hui. David Castel Lopez, vous nous racontez les origines d'une expression, d'une phrase, celle qu'on voit dans les films.
Cette mention légale qu'on voit dans les films et qui dit toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite. Oui.
Voilà, c'est moi, ce qui permet de se dédouaner chaque
exactement, je me suis toujours demandé, il y a dû avoir un avant et un après, eh bien je vais trouver la charnière.
C'est aussi le dessert du jour.
C'est le tiramisu, Olivier Pouls. Alors vous savez faire le tiramisu ?
Oui, je sais le faire, puis je vous emmènerai à l'origine de ce plat italien qui crée une énorme bagarre, vous allez voir, entre deux régions qui tentent chacune de se l'attribuer.
Mais je me souviens d'une jeune fille qui était dans une émission de télé-réalité qui pensait que c'était japonais. Le tiramisu.
Le tiramisu.
Le tiramisu, et je pensais que c'était même une montagne.
Le tsunami.
Heureusement, vous êtes là pour corriger les gens qui parlent mal français,
non.
Qui comprennent mal notre langue.
Non, Marie.
Et oui, c'est le mot de la fin, Stéphane, oui. Vous nous le donnez chaque jour.
Oui. Cette émission, vous savez, Mathieu, elle part à volo.
Oui, ça lui arrive.
C'est un fait. Mais d'où vient cette expression? Et je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec les veaux. VEAU.
Qu'on embrasse d'ailleurs et qu'on
respecte. VEUX, s'ils sont plusieurs.
Oh, le mec, il présente la chronique sur le français. Et tout de suite, filons au XVIe siècle, retrouver Henri II et sa dulcinée Diane de Poitiers et son autre dulcinée Catherine de Médicis. Quelle santé, ces Valois.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
À Henri II, il n'a régné que durant 12 ans et pourtant son nom reste à jamais gravé dans l'histoire. Sa passion pour la Renaissance, sa détermination pendant les guerres d'Italie, sa mort précoce, mais surtout le triangle amoureux qu'il a formé avec deux femmes que tout oppose. D'un côté, son épouse de raison et reine de France, Catherine de Médicis. De l'autre, l'amour de sa vie et favorite pendant plus de 20 ans, Diane de Poitiers. Un ménage à trois dans lequel je vous propose de nous immiscer cet après-midi.
Très volontiers.
Quand en mars 1519, il rencontre pour la première fois Diane de Poitiers, sa future maîtresse, Henri est encore tout jeune et pour cause, il vient de naître. Oui, Diane de Poitiers a 19 ans de plus que lui et elle est l'une des dames d'honneur de la reine Claude, la mère du nouveau-né et l'épouse du roi François Ier. Henri, duc d'Orléans, perd sa mère à 5 ans. À son décès, François Ier nomme Diane de Poitiers gouvernante des enfants royaux. Elle remplace indirectement la figure maternelle dont le petit Henri et son frère aîné François viennent d'être privés. À 7 ans, c'est Diane qui le rassure alors qu'il s'apprête à vivre les pires années de sa vie. Le roi François Ier, incarcéré à Madrid, accepte de signer un traité avec l'empereur Charles Quint. En échange de sa libération, il livre en otage à son rival habsbourgeois ses deux fils, le dauphin François, duc de Bretagne, 8 ans, mais aussi donc le petit Henri. Au moment de traverser la Bidassoa, le fleuve côtier du Pays Basque, Diane de Poitiers embrasse tendrement le jeune Henri et le réconforte. Un souvenir marquant que le futur roi n'oubliera jamais. L'exil des enfants royaux dure 4 longues années. De retour en France, Henri se renferme sur lui-même. Il est maussade, taciturne. Il en veut à son père. François Ier confie de nouveau ses enfants à Diane de Poitiers. Henri retrouve le sourire au contact de sa gouvernante institutrice. Elle est belle, élancée, possède une longue chevelure blonde, de grands yeux bleus. Elle pratique la chasse, comme toutes les Dianes, la natation, la marche à pied et prend énormément soin d'elle. Sur les conseils de son médecin Ambroise Paré, elle se plonge chaque jour dans des bains froids et se recouvre d'élixirs et de crèmes à base d'or pur. Devenu adolescent, Henri tombe progressivement amoureux de cette femme magnétique. Pour lui signifier son profond attachement, le jeune Henri, 12 ans, a une idée. Alors qu'il participe à son premier tournoi, il lui jure fidélité et protection et lui demande la permission de porter ses couleurs, le noir et le blanc. Au XVIe siècle, la chevalerie est primordiale dans l'éducation des futurs princes et rois. En choisissant ce moment pour témoigner son adoration à sa protectrice, Henri d'une certaine façon s'engage sentimentalement. Même si les sources s'accordent à dire que leur relation charnelle ne débute que bien plus tard, vers 1538. Mais la politique et le devoir prévalent sur les sentiments. François Ier, qui a pour obsession de conquérir l'Italie, a tout prévu pour y parvenir. Marier son fils Henri avec l'héritière des Médicis, Catherine. Ce mariage permettrait à François Ier de s'emparer de Florence et du duché de Milan. L'union est célébrée en 1533. Henri et Catherine n'ont que 14 ans. La Florentine, tombée éperdument amoureuse de son époux, un amour malheureusement à sens unique. Car Henri, lui, n'a Dieu que pour une femme de 19 ans, son aînée, vous l'avez compris. Toujours Diane de Poitiers. En 1547, Henri devient Henri II, roi de France. Son père, François Ier, vient de mourir et son frère aîné, premier à la couronne de France, a rendu l'âme 11 ans plus tôt. Son règne s'étend sur 12 courtes années. Henri II renouvelle une grande partie des hauts responsables politiques et investit même officieusement sa favorite, Diane de Poitiers, parmi ses proches conseillers. Et jusqu'à la mort du roi, elle joue un rôle important dans les décisions prises par Henri II. Diane de Poitiers a reçu une éducation plutôt stricte et suggère à son amant des réformes sociales et législatives. C'est elle notamment qui le pousse à durcir la position de la France contre les Huguenots. Elle est à l'origine de l'édit d'Écouen qui interdit le culte protestant sur le royaume de France. Quand elle se promène à Paris, une expression revient souvent : les protestants, nous sommes ici tondus, pendus et brûlés avec le feu qu'elle a au cul.
Ah oui.
En échange de ses conseils, mais surtout pour lui témoigner son amour inconditionnel, Henri II couvre sa favorite de cadeaux. Les bijoux de la couronne, la somme astronomique de 100 000 écus, et surtout le château de Chenonceau.
Ah oui, bah, c'est pas dégueu.
Oui, elle tient une belle place auprès du roi qu'on la surnomme la plus que reine. À l'inverse, la reine en titre, Catherine, n'est pas vraiment en odeur de sainteté à la cour. La pauvre souveraine ne parvient pas à, d'abord pendant longtemps à donner d'héritier à Henri II. Elle risque toujours la répudiation. Pour y échapper, on dit qu'elle consulte des savants, des astrologues, des voyants. Cette habitude lui vaut le surnom de sorcière. Il faut dire qu'elle n'hésiterait pas à percer un trou dans son paquet.
Ça, ah oui, ça allait très loin. Hein.
Pardon.
Pauvre Henri II, ça. Scoop d'histoire avec Stéphane Bern.
Non. Il faut dire qu'elle n'hésiterait pas à percer un trou dans son parquet pour espionner les ébats de son mari et de sa favorite à l'étage du dessous.
La coquine.
Je sais que là, je vous ai choqué.
Oui. Il en faut beaucoup, mais.
Pourtant, c'est bien Diane de Poitiers qui joue un rôle déterminant dans l'avenir de Catherine à la cour. Car Diane, bien que toujours séduisante, prend de l'âge. Et si Catherine de Médicis est renvoyée pour cause d'infertilité, la favorite court le risque de voir arriver une reine beaucoup plus jeune et beaucoup plus séduisante. Elle pousse donc Henri II à honorer plus régulièrement son épouse. Et le miracle se produit. D'ailleurs, vous le savez, il y avait un petit problème dans leur sexe qui était un peu opposé. Et le médecin leur a expliqué comment faire. Le miracle se produit donc.
Leur sexe était un peu opposé,
oui,
c'est-à-dire Stéphane développé,
c'est-à-dire
parce que là, je ne comprends pas.
Le vagin inversé.
Le vagin inversé, c'est-à-dire il sortait, c'est-à-dire
oui. Oui, il faut demander.
Notre invité Didier Le Fur qui est déjà avec nous, on peut le dire.
Il connaît bien les vagins.
Stéphane se tourne vers lui et Didier fait signe non. Moi, je ne rentre pas là-dedans, gynécologique.
Ne rentrez pas dedans. Je ne sais plus le nom du médecin qui leur a expliqué comment faire.
D'accord.
Le miracle se produit à 10 reprises.
Ah, quand même.
Catherine de Médicis donne naissance à des enfants. Diane a sauvé le couple royal et sa place par la même occasion. Pendant 20 ans, Catherine de Médicis supporte ce ménage à trois par amour pour son mari, mais le 10 juillet 1559, à 40 ans, vous le savez, oui. Mathieu Henri II succombe aux blessures survenues lors d'un tournoi de joute à Paris. Catherine de Médicis est en deuil, mais elle tient là sa revanche sur sa rivale. Elle chasse Diane de la cour, lui somme de rendre, entre autres, le château de Chenonceau et les bijoux royaux. Diane de Poitiers s'éteint à 66 ans au château d'Annette. Catherine, elle, sera régente et reine-mère pendant encore 13 années.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler et essayer de mieux comprendre ce trio magique formé par Henri II, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, nous sommes avec l'historien Didier Le Fur. Bonjour Didier.
Bonjour.
Ah oui, Didier Le Fur, vous avez notamment publié la biographie d'Henri II chez Talendier, celle de Diane de Poitiers chez Perrin, deux livres qu'on va coller l'un contre l'autre cet après-midi pour justement parler de ce trio amoureux. Mais j'en reviens quand même à mon obsession.
Oui, tout à l'heure. Sens que ça vous obsède.
C'est Jean Fernel. Voilà, je cherchais le nom du médecin qui a expliqué comment ils pouvaient avoir des enfants. Je crois qu'il fallait qu'ils fassent un peu d'acrobatie parce que le roi... Enfin, ils avaient des sexes qui étaient un peu...
Asymétriques, on va dire.
Qui ne se combinaient pas.
Ça
le roi souffrait de hypospadias. Les amants doivent adopter la position de la levrette. Et ça marche. Elle aura 10 enfants en 12 ans. C'est purement technique,
mais tout
Didier
à fait,
Le Fur.
Mais c'est important.
On est d'accord.
L'histoire, c'est la précision, Didier.
Ils avaient les sexes.
Vous voyez ce que vous voulez.
Alors, parlons de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis. Ce sont deux femmes que tout oppose, mais Henri II est la seule personne qui les réunit, finalement.
Eh ben pas tant que ça, parce qu'il y a des liens de sang aussi entre elles. Ah. Et que on a toujours l'habitude de présenter Catherine de Médicis comme une Italienne. Or, sa mère est française. Et la famille de la mère est aussi la famille de la mère de Diane de Poitiers. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont la grand-mère de Diane de Poitiers et la sœur de l'arrière-grand-mère de Catherine de Médicis.
Ah oui. Ah oui, donc il y a vraiment un lien. Il y a une chose assez incroyable qui résume un peu l'émission du jour sur ce trio amoureux. C'est quand on met le chiffre de Henri et le chiffre de Catherine de Médicis, le H et le C, bah finalement parfois ça forme un D et ça fait Henri et Diane.
Alors c'est une interprétation posthume si j'ose dire.
Oui.
Parce que
Stéphane adore ça.
Mais avouez que c'est assez surprenant. Quand on est au château d'Annette,
si on pense à ça, oui, effectivement,
on le voit partout.
On le voit partout.
On voit les trois initiales partout. H, C et D.
Alors en fait, il y a un H pour dire c'est le chiffre, le H
de Henri.
Même si c'est une lettre, c'est un chiffre dans les reliques. Il y a son emblème qui est une lune.
Oui.
Et il a collé les deux lunes à la barre des haches verticales. Et donc, ça fait un D, effectivement. Mais c'est aussi Henri II.
Tout simplement.
Et comme le T de Henri III, ça fait avec le terre, ça fait un... Avec, voilà, et c'est parce qu'on a voulu tellement associer Diane de Poitiers, à partir du XVIIe, mais encore plus au XVIIIe et XIXe, à la politique royale, qu'on a dit qu'elle avait tellement dominé cet homme, par tous les moyens, et bien qu'elle avait que lui... par hommage, avait mis le dé aussi de Diane à l'intérieur de son chiffre pour dire que finalement, la vraie reine, c'était elle et non pas Catherine de Médicis.
Didier Le Fur, démêlons un peu l'effet du mythe. Est-ce qu'on sait qu'elle a la différence d'âge entre Henri II et Diane, mais est-ce qu'il l'a vraiment connue, Diane de Poitiers, dans la pouponnière ou ça,
non,
c'est un peu
tout.
Raconté.
Ça, c'est le problème, c'est que comme il fallait compléter un personnage qu'on connaissait peu, mais qui
on
était utile... pour justifier le fait qu'une femme au pouvoir ou une femme proche du pouvoir était une catastrophe, ouais. Eh bien, on a cherché facilement à monter toute une sorte de... Comme on l'avait fait pour Catherine de Médicis, en montrant que finalement, dès son arrivée en France, elle aurait été une sorte d'espion pontifical prête à détruire la France, et bien Diane de Poitiers était dans la même logique. Et donc, on a construit comme ça une légende, remontant. Au début, on la présente sous le règne de Henri II, simplement, et puis peu à peu, on fait un... On construit un truc beaucoup plus machiavélique et qui ferait que justement dès ses 20 ans, et bien choisissant parmi les fils de France Henri II, pourquoi pas le premier, pourquoi pas le troisième, et justement en faisant son esclave finalement à la fois sexuelle d'abord et puis après politique.
On le sait, c'est qu'à la cour, évidemment, on se mariait pour enfanter, pour avoir une descendance. On se mariait pas par amour, c'était
non, du
la
tout,
stratégie.
C'est totalement politique.
Catherine de Médicis, c'était vraiment un choix. Ce qui est vrai, c'est que la passion d'Henri II, Diane de Poitiers, est très présente. Est-ce que c'était courant à l'époque qu'une femme de 20 ans plus âgée que son amant, ou est-ce que ça choquait?
Ça s'est pas su d'abord, pendant très longtemps. C'est Henri II, justement, en lui donnant ce fameux don de royale à son avènement, qui va déclencher à la fois la connaissance et aussi la polémique. Jusqu'en 1547, la relation d'Henri d'Orléans, puisque c'est encore lui, ou le dauphin, et avec Diane de Poitiers est connue, certes, mais c'est une relation amicale, c'est une relation filiale. On n'imagine absolument pas quelque chose de sexuel avec eux. Et à partir de 1547, quand on connaît la relation, là, il y a un problème qui se crée, effectivement, sur cette idée de monstruosité. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et notamment dans certains milieux, et que les protestants vont enrichir dans leur critique du pouvoir sur cette idée qu'une femme de 20 ans de plus qu'un homme ne peut pas normalement séduire cet homme. Et donc il y a forcément de la magie, il y a forcément de la sorcellerie, il y a forcément tout ce truc-là. Ouais.
J'ai une autre question, peut-être une dernière question, mais sur la rivalité entre les deux femmes. On a raconté beaucoup de choses, que Catherine de Médicis et Diane de Poitiers se détestaient. Il y a eu cet échange des châteaux entre Chaumont-sur-Loire et Chenonceau.
Ah, si vous voulez, on peut parler de ça, oui.
Oui, mais c'est... Elle s'est vraiment mal comportée avec la maîtresse du roi.
Non, pas du tout, parce que justement, elle a jamais été considérée comme une maîtresse. Comme une favorite, comme une Pompadour ou comme même Gabrielle d'Estrée, elle a toujours été à la cour comme une cousine du roi et de la reine. Et donc, dans la hiérarchie, elle est au 7e, 8e rang dans toutes les cérémonies, la préséance et des choses comme ça. Et donc, elle n'est pas remarquable de ce point de vue. Et c'est à partir des textes d'opposition, et notamment des protestants, qui vont commencer à critiquer Henri II sur ses édits anti-protestants, et donc en considérant que si lui est bon, son entourage est mauvais, que là, on va intégrer le nom de Diane de Poitiers dans toute la liste Anne de Montmorency, les Guises et autres, comme ces personnages maléfiques. Forcément, elle devient la vieille jument grise, elle devient forcément cette femme acariâtre et
avide de
bien et volant tout, tuant tout le monde pour en avoir davantage. Et quant à la relation avec Catherine de Médicis, on la connaît pas ou pratiquement pas. Elle est officiellement douce, toujours publiquement, parce qu'il y a aucun moment, finalement, Henri II n'imposera Diane de Poitiers comme sa maîtresse, comme Henri IV a pu le faire avec d'autres. Et donc, il y aura jamais un moment où Catherine de Médicis, publiquement, se sentira déshonorée par rapport à ça. Même si elle peut en souffrir intérieurement. Mais ça, on n'en sait rien. Elle le dira que simplement dans les années 1570, 1575, quand justement, elle reprochera à Henri de Navarre de se très mal conduire avec Margot, parce que justement, il la délaisse en s'affichant avec une autre femme.
Très bien, bah merci beaucoup Didier Le Fur. Je renvoie à la lecture de vos excellentes biographies, Henri II chez Talandier, Diane de Poitiers chez Perrin, et votre dernier ouvrage, c'est Peindre l'Histoire, un livre richement illustré paru aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup.
Merci. Je vous remercie vraiment.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnalités de l'histoire qui avaient deux amours, parfois plus. Après Cléopâtre, partagé entre César et Marc-Antoine, Henri II écartelé entre Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, vous nous brossez à présent, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une actrice française qui aime sans compter. Hélène de Fougerolles ou les vertus de ce qu'on appelle le polyamour.
Ah, le polyamour. Une notion qui existait déjà dans la Grèce antique, pratiquée notamment dans le jardin d'Épicure et qui, selon la légende, survivrait aujourd'hui encore dans le secret d'une villa de l'île de Paros, propriété d'un certain Stéphane B, où chaque sculpture, chaque buste rappellerait le caractère dionysiaque du lieu.
Dans le jardin, la piscine de forme phallique vaut aussi le coup d'œil.
Oui, on n'en doute pas, Stéphane. Mais d'un point de vue civilisationnel, il faut l'avouer, le polyamour n'avait plus le vent en poupe depuis quelque temps, probablement échaudé par 2000 ans de judéo-christianisme moralisateur. Mais pour vous dire la vérité, pour moi, le concept de polyamour, c'était une idée portée par des hippies 68ards retranchés dans le Larzac pour produire du fromage de brebis et copuler sans tabou. La seule fois que j'en ai vu, c'est dans un film avec Clavier et Lamotte où Anémone est souvent stone et déclare des trucs comme
« J'ai rêvé de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne et tu jouais du sitar. »
Avec un sein qui dépasse du Sarwell. Film dans lequel on comprend assez vite que, sous couvert de simplicité et de retour à l'essentiel, l'organisation concrète du polyamour dans une communauté relève plutôt du casse-tête.
Mais comment ça se passe dans une communauté quand on est plusieurs avec la même fille ? Moi, j'ai connu une commune en Ardèche où il y a des tickets de baise. Il y a aussi la solution de la partouze.
Alors attention Stéphane, nous sommes sur une pente glissante. Je sens que ce sujet excite plus que de raison Castello Lopez, regardez.
Son sexe est sorti du slip.
Rangez-le David, rangez-le. Je faisais référence à ce film uniquement parce que justement, je voulais exprimer ce que je pensais être le polyamour. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Hélène de Fougerolles, cette actrice française qui s'y est convertie, le dit très clairement, je cite, « Je n'ai pas du tout envie de baiser avec tout le monde, c'est pas du tout mon truc ». Soyez pas déçus David, c'est intéressant quand même, vous allez voir. Déjà, dans polyamour, il n'y a pas le mot sexe, mais amour. Oui David, l'amour, le vrai, le pur, mais multiple. C'est une tendance bien réelle pour cette nouvelle génération de Français déjà pionniers sur le savon solide, la trottinette électrique, les desserts sans gluten et le lait sans lactose. Génération tournée vers son prochain et qui trouve égoïste au fond de réserver son amour, son corps et ses talents de bête de sexe contorsionniste à une seule et même personne. La monogamie ! Réveillez-vous les ringards. On est en 2020 les gars, la monogamie c'est comme les orangettes au rayon confiserie, y a plus que les seniors à qui ça vend du rêve. Figure de proue de ce nouveau mouvement de libération sexuelle et sentimentale, donc la comédienne Hélène de Fougerolles, dont il faut saluer le chemin qu'elle a dû parcourir pour atteindre un tel degré de coolitude, sachant qu'elle est née Hélène Rigouane de Fougerolles. Qui plus est, à Vannes. Issue de la noblesse bretonne, la logique aurait voulu qu'elle épouse un cousin nommé Guénolé avec qui elle aurait eu 6 enfants, qu'elle aurait habillé en Saint-James, une vie bien rangée dans laquelle son plus grand frisson érotique eût été la galette saucisse du dimanche. Que nenni ! À 16 ans, Hélène décide de monter à Paris avec la même niaque que jadis le jeune Victor Hugo qui disait « Je serai Chateaubriand ou rien ». Elle, plus modeste, déclare « Je serai esthéticienne ou rien, ou actrice ». Finalement, plus douée pour la comédie que pour le peeling brésilien, Hélène commence à écumer les castings et intègre le prestigieux sitcom dont vous vous souvenez forcément, le Collège des Cœurs Brisés. Fine fleur des studios AB Productions mettant en scène des collégiens flirtant autour d'une grenadine dans une cafette où personne ne paye jamais. Une série où, pour les besoins dramaturgiques, les personnages se pécho tous les uns après les autres, parfois même en même temps, c'est peut-être là qu'Hélène a inconsciemment le déclic. Car bien des années plus tard, pour tout vous dire, cette année, elle décide que tout ça ne lui suffit plus, elle en veut plus. Les relations hétérosexuelles monogames, elle a fait le tour. Elle vit le confinement du mois de mars dernier en célibataire, comme le prouve la teneur de ses posts sur les réseaux sociaux. Je suis végane, alors je me suis lancée dans la cuisine végane. Je fais des gâteaux sans beurre, sans œufs, sans sucre. J'étudie comment ça tient. Je suis aussi des cours de yoga tous les jours pendant 1 heure. Et puis, je fais le ménage. Effectivement, il était temps pour Hélène de mettre un peu de tabasco dans sa vie.
Gourmande.
C'est là qu'elle découvre les vertus du polyamour. Elle s'en explique dans Paris Match. Ce n'est pas de l'attraction sexuelle. Ce n'est pas le sexe qui m'anime, c'est de l'amour et de l'échange possible avec plusieurs personnes. Partager des échanges amoureux avec des hommes ou des femmes qui puissent être ouverts également à d'autres personnes. Attrayante sur le papier, cette façon de faire, où en gros les amants de mes amants sont mes amants, pose, vous en conviendrez, un léger problème sur le plan sanitaire. T'as un mec, pas clean, un seul mec pas clean au milieu de cette grande chaîne de l'amour et paf, un matin, tout le monde tousse et le fautif se dit...
C'est peut-être moi qui l'ai refilé à tout le monde.
Deuxième point, ne pas trier. Hélène explique qu'il ne faut rien s'interdire. Ah, je peux aussi vivre d'autres histoires avec des hommes et des femmes. Il n'y a pas encore de femmes, mais j'adorerais. On appelle ça la pansexualité. Oui, alors ça aussi sur le papier, c'est génial. Dans les faits, plus il y a de monde, plus il y a de rancune et un jour ça explose.
Moi, j'ai pas besoin de 2 mecs dans mon lit pour prendre mon pied.
Ah non, pas ça.
Et Raymondo, qu'est-ce qu'il est venu faire, Raymondo ? Il cueille les fraises ?
Laissez Raymondo en dehors de ça, il n'est pas français !
Et toi ? Tu simules l'orgasme !
C'est formidable, et j'y vois un autre avantage. Et si le prétexte du polyamour pouvait servir de martingale en cas d'infidélité classique ? Moi, c'est ce que j'ai envie de retenir de tout ça, et je sais que Castello aussi. La prochaine fois que vous vous faites gauler au pieu avec votre maîtresse, ayez le bon réflexe et dites, sans sourciller... Ah, mais Martine, je ne t'ai pas trompé avec Marion de la Comta. Je t'initie simplement au polyamour, une manière plus saine d'accueillir et de vivre tes sentiments. Tu lis pas Cosmo parfois ? Alors ne sois pas buté, il s'agirait de grandir, Martine. Il s'agirait
de
grandir.
Je crois que c'est du sperme, non ? C'est pas ça ?
Pas du tout, c'est la crème coco. On était en train de préparer un bon pas de taille pour tous les trois. Parce que nous, avec Marion, on pense collectif. Qu'est-ce que vous pensez du polyamour, Stéphane ?
Je pense
Est-ce que je vous ai converti ?
C'était 99% faux cette fois.
C'était 99% vrai. La forme de votre piscine à Paros n'est pas en forme phallique. Vous aviez demandé, mais l'architecte vous a dit c'est pas possible.
Vous avez aussi utilisé des sons qui n'étaient pas vraiment appropriés.
Mais qui étaient sortis de leur contexte, mais que vous avez vraiment prononcé dans des circonstances plus privées, effectivement.
Ah, oui.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
L'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi continue avec David Castello-Lopez, notre enquêteur de l'histoire, qui repart chaque jour aux origines d'une invention, d'habitude aujourd'hui d'une mention.
Toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. La formulation exacte en français, elle change un peu quelquefois, mais le plus souvent, pour la donner dans son intégralité, c'est « toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence ». C'est souvent en anglais qu'on la voit aussi, et pour l'occasion, j'aimerais que Olivier Pouls traduise cette phrase en anglais. Est-ce que vous pouvez nous la faire, Olivier ?
Mais avec plaisir. Any similarities to actual person, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Ah, vous avez la grosse voix, là, de Universal Studio.
Exactement, on l'a complètement. C'est un français sexy l'accent, qui moi. Fait la mention légale. En fait. Et c'est assez rigolo parce que cette mention, en gros, aux États-Unis en tout cas, elle est présente dans tous les films. Même des films comme Spider-Man, où je veux dire, on se doute bien qu'un homme araignée qui crache du fil par les poignets, c'est pas basé sur des vrais trucs, quoi. Et plus étrange encore, c'est même mentionné sur des films qui sont de façon absolument évidente, entièrement basés sur des gens et des faits qui ont existé.
Ah oui, mais...
Un des meilleurs exemples de ça, c'est le film Raging Bull de Martin Scorsese, où Robert De Niro y joue un boxeur italien. Et Raging Bull s'est tiré presque trait pour trait de la vie du boxeur Jake LaMotta. Je veux dire, c'est marqué sur l'affiche que c'est basé sur les mémoires de Jake LaMotta. Et Jake LaMotta, il est même crédité dans les consultants du film, mais il y a quand même marqué toute ressemblance avec des personnages ayant existé est purement fortuite. Bah non, elle est pas fortuite, connard. Elle est tout à fait déterminée et sûre. Mais alors d'où vient cette obsession pour cette mention ? Eh bien, ça a un lien avec Rasputin.
Vous êtes fortif.
Oui. Vous connaissez Rasputin. Vous connaissez au moins la chanson de Boney M. Hein,
oui. Go Rasputin. Love Machine. Après, entre les deux, c'est du yaourt. Hein, je ne sais jamais.
Mais pour ceux qui connaissent la chanson, mais pas la personne, Rasputin, c'était une sorte de guérisseur russe charismatique et libidineux qui était pote avec le tsar Nicolas II,
surtout avec
sa femme Alexandra, avec laquelle il était peut-être même un petit peu plus que pote. Voilà. Et Rasputin, il a été assassiné par un petit groupe d'aristocrates russes qui, entre autres, kiffaient pas trop le fait qu'il ait autant d'influence sur le tsar. L'un de ces aristocrates meurtriers, c'était le prince Youssoupov. Voilà. Et à cause de ça, le prince Youssoupov, il a été exilé à Paris par le tsar. Ça va au passage comme punition pour avoir tué un type de sang-froid, hein, d'être exilé à Paris.
C'est pas trop mal.
Et ça va d'autant plus que cet exil lui a sans doute sauvé la vie, parce que c'était en décembre 1916 et que l'année suivante, il y a eu quoi en Russie ? Eh ben la révolution de 1917 et les aristocrates russes qui étaient encore en Russie, eh bien il y en a une bonne partie qui ont été zigouillés, dont le tsar lui-même évidemment. Pendant ce temps-là, Youssoupov à Paris, il kiffait bien le fait d'être en vie, et il a écrit ses mémoires dans lesquelles il raconte au KLM comment il a assassiné Rasputin, avec plein de détails. Et là, enfin un petit peu après, 16 ans plus tard, au début des années 30, la MGM, le grand studio hollywoodien, il s'est dit « ce serait cool si on faisait un film avec l'histoire de Rasputin ». Et ils l'ont fait, et ça s'est appelé « Rasputin et l'impératrice ». Et ça raconte notamment le côté un petit peu chaud lapin de Rasputin avec les femmes, mais aussi son meurtre par Youssoupov. Alors, ils ont changé le nom des meurtriers, hein, mais c'était clairement de Youssoupov qu'il s'agissait. Et là, vous savez quoi ? Youssoupov, il s'est indigné. Il a dit « non mais c'est honteux votre film ».
Alors
c'est,
qu'il l'avait raconté.
C'est pas du tout comme ça que je l'ai buté. Mais il voulait faire un petit peu un procès, mais on peut pas faire un procès en diffamation parce que quelqu'un a pas été assez précis dans le récit d'un meurtre que vous avez avoué avoir commis. Tu vois, c'est pas possible de diffamer pour ça. Le truc, c'est que dans le film, il est aussi dit que Rasputin avait violé la femme de son meurtrier, et comme le meurtrier dans la vraie vie c'était Youssoupov, eh bien ça voulait dire que le film disait que Rasputin avait violé la vraie femme de Youssoupov, qui s'appelait Irina et qui était une princesse impériale. Et là, les Youssoupov, ils se sont dit là, il y a un coup à jouer. Irina, elle a fait un procès à la MGM en disant que le film la déshonorait. Elle a gagné et la MGM a dû lui verser l'équivalent de 2,5 millions de dollars de l'époque. Et si elle a gagné, c'est en grande partie parce que la MGM avait beaucoup insisté sur le fait que le film était basé sur des vrais gens et même sur le fait que certaines de ces personnes étaient encore vivantes. Et le juge a dit à la MGM, tant vous auriez dû dire le contraire, vous auriez dû dire que c'était de la fiction et que ça avait rien à voir. Et c'est donc de ce moment, du début des années 30, que date la mention « toute ressemblance avec des personnes ou des faits existants ou ayant existé serait purement fortuite ». Alors la question c'est, est-ce que vraiment ça protège les maisons de production contre les procès ? Eh ben pas toujours, il y a au moins deux exemples où ça a pas marché. Il y a notamment un film dans les années 80 qui racontait la vie d'un chanteur qui s'appelait Fabian. Il y avait la mention, mais le chanteur a quand même fait un procès et il a gagné le droit à 7% des recettes du film. Mais ça marche quand même un peu, puisque pour l'instant, le vrai Spider-Man n'a encore jamais fait de procès à Marvel parce qu'ils avaient mal dit comment ça sortait de ses poignets. Voilà.
Cette mention permet tout. Puisque Marco Ferreri, le réalisateur de La Grande Bouffe, l'a mis au début, alors qu'on sait tous que c'est inspiré de la vie d'Olivier Pouls, notre chroniqueur.
Malheureusement pas eu 6% des recettes du film.
Qui va nous parler aujourd'hui du tiramisu.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, Stéphane, historiquement vôtre, évoquait ces personnages de l'histoire qui ont aimé plusieurs personnes à la fois ou successivement. Seulement voilà, aimer, c'est parfois ne plus être aimé et finir seul un jour à une table du Pizza Pino de la Porte de Versailles devant un tiramisu avec lequel le serveur, involontairement cruel, a apporté deux cuillères. Oui, pardon, je m'égare et j'en dévoile peut-être un peu trop sur mon propre passé amoureux. Olivier Pouls, vous nous donnez la recette et l'histoire du tiramisu aujourd'hui.
Bah oui, est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'ailleurs, tiramisu?
Non mais Stéphane, dans la pub, nous a soufflé une idée. Hein.
Ouais. Tirez-moi de là, non
C'est fou parce qu'en portugais, tiramisu, ça veut dire enlève-moi ça. Tiramisu de qui enlève-moi ça d'ici.
Alors, ça veut dire tire-moi vers le haut et en fait, ça veut dire remonte-moi le moral. C'est un plat qui remonte le moral.
Vous aviez presque bon, Stéphane. Oui,
j'aime ouais. bien qu'il y ait ce genre de tirette.
Oui. Il se demandait d'ailleurs s'il y avait une relation sexuelle avec la crème. Une petite, je vais venir dans un instant.
Bah, c'est déjà le biscuit trempé.
Bon, il y a le biscuit trempé, évidemment, mais surtout, c'est un plat qui est considéré comme aphrodisiaque. Et on prétend que les prostituées de Venise en commandaient pour...
Client. Attends, tu bouffes un tiramisu derrière.
Moi,
pourtant, le plat est prétendu comme aphrodisiaque. Alors, on ne sait pas très bien, en réalité, d'où il est né. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bagarres en Italie autour de l'histoire et de la création du tiramisu. Alors, il y a une première hypothèse qui prétend qu'il pourrait venir de Toscane, inventé au XVIe siècle pour la venue du grand-duc Côme III de Médicis, plat qui aurait été créé donc pour cet événement. Mais en Italie, il y a très peu de codification de la cuisine et de livres. Mmh. Et en réalité, on se rend compte que dans la littérature italienne, il n'y a pas de vraie mention écrite de recette du tiramisu avant les années 1970. Ce qui est quand même très tard. Et ce qui fait dire aux Vénitiens que la recette a été inventée en réalité plus tard, dans les années 1950-1960, dans un restaurant qui s'appelle la Beccheria, qui est à Trévise. Faux, rétorque-t-on en Frioul-Vénétie voisine, hein, où là on affirme, photo à l'appui, que le plat est né en 1952 dans un restaurant de Tolmezzo. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui encore une bataille juridique entre ces deux régions italiennes, puisque la première a inscrit le tiramisu à la liste officielle de ses produits agricoles traditionnels, et la seconde attaque en justice, évidemment,
pour dire c'est nous,
en disant c'est nous. Donc on ne saura pas vraiment où est né exactement le tiramisu, probablement dans le nord de l'Italie, mais ce qui est certain, c'est que c'est le plat, le dessert emblématique italien, il a fait le tour du monde, et surtout qu'il est en fait très facile à réaliser. Il faut peu d'ingrédients, et qu'est-ce que c'est bon, franchement. Oui. Alors pour le réaliser, donc il vous faut ce qu'on appelle des biscuits cuillères, hein, oui. Voilà, ou des boudoirs, une vingtaine, 100 grammes de sucre, le mascarpone évidemment, ce qui est une espèce de crème italienne, hein, un café, parce qu'il y a toujours du café dans le tiramisu forcément, des œufs, un peu d'amaretto, c'est un alcool italien
à base d'amandes,
voilà, et un peu de poudre de cacao pour la décoration finale. Évidemment, l'important trempage du biscuit, hein, pour Stéphane.
Très important.
Les biscuits
non, mais pas pour moi.
les biscuits qu'on trempe dans le café et l'amaretto, on mélange les deux, on trempe les biscuits dedans, et puis on fait une crème. Donc on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre et la mascarpone. On va monter les blancs en neige. On va réunir tout ça pour avoir une crème vraiment très légère et très onctueuse. Et puis on monte donc des couches, crème, biscuit, on termine par la crème et on saupoudre avec du cacao en poudre. 2 ou 3 heures au frigo pour que ça tienne bien et que effectivement on ait une consistance assez solide. Et hop, à table les amis.
Merci Olivier. Là vraiment on a
voyagé.
On a voyagé, oui, on est parti en Italie. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Un tiramisu avec 2 cuillères, voilà une scène qui doit parler à son cœur lui aussi. Mais en ce moment, Stéphane Bern est amoureux de quelqu'un qui ne coûte pas cher au resto, la langue française. A tout de suite pour le mot de la fin.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est une émission, Stéphane, il faut l'avouer, qui est partie un peu à volo aujourd'hui. Oui, il y a eu des digressions un petit peu sexuelles. Vous nous expliquez l'origine de l'expression.
C'est vrai, mais voyez-vous, aujourd'hui, je regrette cette expression qui est un brin suranné, évidemment, et désuète. Aujourd'hui, on dit « il part en vrille, en cacahuète ». Moi, ça me rend nostalgique. J'aimais
en couille,
bien...
Stéphane.
Oui.
Mais... Vous n'arrivez pas à le dire. Non.
Moi, j'aimais bien cette expression « partir à volo ».
Oui.
On va réhabiliter cette expression. En fait, c'est une expression du 12e siècle, dans sa version originale, on disait « aller à Val ou aller à Vaux ». Rien à voir avec le petit de la vache. Hein. Le mot est devenu « valet », puis une autre expression bien connue est née « aller par Monts et par Vaux ». Au XVIe siècle, quand on allait à Val, cela signifiait
qu'on suivait le cours de l'eau. On disait aussi aller à Val de Route quand une des routes se profilait. Le temps a fait son affaire, voilà comment est né aller à Volo pour exprimer l'idée que tout part, j'allais dire, en quenouille. Voilà.
pour rester moderne.
Oui. D'ailleurs, quand on disait à Volo, on voulait exprimer le fait que ça n'avait plus d'importance, puisque tout partait comme ça, tout dérivait, tout était perdu. Ça faisait également référence aux bûches qui étaient perdues durant le transport en flottage. Les bois partaient à Volo. Voilà. Pardon. Mais c'est quand même autrement plus poétique que de partir en couille. Hein, si je me permets.
C'est vrai, et vous avez réussi à le prononcer, Stéphane, et je sais que.
Oui, c'est
il
dur.
Vous en coûte.
Il m'en coûte énormément. Mais vous savez, on nous a dit quoi qu'il en coûte, alors.
Vous vous adaptez.
Mais alors, comment écrit-on à Volo?
Parce que ça, c'est toujours. À Vo, ça vient de Val, V-A-U, à Volo. Plus loin, vous mettez l'eau.
E-L, apostrophe E-A-U.
L apostrophe E-A-U.
Et en portugais, on dit comment?
Alors là, on ne le dit pas. Parce que déjà, ça rien ne part à Volo, Portugal.
Oui, tout est bien solide et structuré.
Ils avaient deux amours.
J'ai deux amours.
Bisous à Hélène de Fougerolles, mon 0600 MP sur Insta, Mathieu Noël très officiel. Mais l'heure est venue, Stéphane, de dire adieu à nos polygames de l'histoire, polygames dans lequel je n'inclus ni Castello Lopez ni Pouls, qui pourtant, vous et moi, on le sait, sont pas les dames. Bref, quelle histoire vous a le plus frappé aujourd'hui, Stéphane, ou excité? Vous pouvez me le dire, vous savez, je ne juge pas.
J'ai bien aimé l'histoire, déjà quand Virginie Giraud est avec nous, c'est toujours très, très, très sensuel. Mais c'est vrai que j'ai une certaine tendresse pour cet amour impossible de Marc-Antoine et de...
Ah, c'est beau. C'est beau comme de l'antique. Comme le disait Nietzsche, les amis, demain sera un autre jour. Oui. Vous savez déjà ce qui nous attend dans Historiquement Vôtre, Stéphane?
Oui, demain, des prix Nobel. Eh oui, je parlais pas de vous, évidemment.
J'ai compris.
On réunit la littérature et la physique avec l'écrivain Jean-Paul Sartre et le physicien Gabriel Lippmann, à qui l'on doit le passage de la photographie en couleur.
Et eux aussi ont eu un Nobel, enfin un prix Ig Nobel, deux chercheurs qui ont mesuré et étudié la différence de température entre les testicules droit et gauche des postiers français. Et je vous jure que c'est vrai.
Ah mais je vous crois.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.